10%.
Benevite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez...
Poltrone et sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin.
Il fait toujours plus beau quand on voit bien. En ce moment, chez Écoutez Voir, les verres à votre vue sont offerts pour l'achat d'une monture solaire à partir de 69 euros. Mais surtout, chez Écoutez Voir, il n'y a pas d'actionnaire et les bénéfices contribuent à l'économie sociale et solidaire. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien sur ordonnance, point de vente soumis au code de la mutualité. Offre valable jusqu'au 31 août 2024, conditions et engagements sur écoutezvoir.fr.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R, la mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale. Prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire. Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera de la sidération après l'attaque du fourgon pénitentiaire qui a causé la mort de deux agents hier. L'État est-il désormais dépassé par l'ultra-violence? On attend vos réactions, vos commentaires au 32-16 et sur l'appli RMC. RMC, il est midi. Les infos, tout de suite avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Une réunion de crise à l'Élysée sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Deux personnes sont mortes dans une nouvelle nuit d'émeute. L'une des suites de ses blessures après un tir potentiellement de quelqu'un qui a voulu se défendre. On ne connaît pas encore les circonstances du décès de la deuxième personne. Des centaines d'autres ont été blessés. Mobilisation contre une réforme qui vise à élargir le corps électoral voté hier par les députés. Des émeutes malgré le couvre-feu mis en place à Nouméa. Nicolas Metzdorf, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, demande l'instauration de l'état d'urgence.
Tous les Calédoniens aujourd'hui se sont mis en danger. C'est la guerre civile. Il y a des barricades dans tout Nouméa et dans tout le Grand Nouméa entre Calédoniens qui sont surarmés. Hein. La Calédonie, c'est 250 000 habitants et c'est 100 000 armes en circulation. Aujourd'hui, clairement, si on n'a pas l'état d'urgence de décréter, on peut avoir une troisième nuit qui peut être encore plus meurtrière que ce qu'a été l'après-midi.
Un conseil de défense toujours en cours à l'Élysée. Hélène Terzian du service politique de RMC, vous êtes sur place. Plusieurs mesures devraient être prises.
Oui, et pour l'instant, rien n'a fuité de ce conseil de défense qui se tient toujours dans le PC Jupiter à l'Élysée. Un pilotage interministériel avec un objectif, le retour à l'ordre, nous dit-on à Matignon. L'exécutif qui parle d'un climat insurrectionnel se dit pleinement mobilisé. En plus du renfort de forces de l'ordre envoyé sur place, plusieurs mesures devraient bien être prises à l'issue de ce conseil. La question de l'état d'urgence se pose, me confie un conseiller de Matignon. On le sait, c'est une demande de responsables locaux qui parlent de guerre civile. Ramener le calme en Nouvelle-Calédonie, c'est donc la priorité du gouvernement. Dans un courrier adressé aux élus, Emmanuel Macron rappelle qu'il souhaite recevoir à Paris les représentants de l'île. Objectif, trouver un accord, sans quoi il convoquera le Congrès avant la fin juin pour entériner la révision constitutionnelle en Nouvelle-Calédonie à l'origine de la flambée de violence.
Merci Hélène Terzian. Des prisons bloquées et une minute de silence observée il y a une heure en hommage aux deux agents pénitentiaires tués hier. Ils ont été attaqués dans leur fourgon qui transportait un détenu dans l'heure. Le détenu évadé est toujours activement recherché. Trois autres agents ont été blessés. Lucille Pascanet, vous êtes à Caen. Émotion particulièrement vive puisque c'est ici que travaillaient les cinq agents attaqués hier.
Oui, ils étaient une centaine d'agents en poste, d'anciens collègues, de proches des victimes réunis derrière les grilles de la prison de Caen. Les traits tirés, les yeux mouillés au milieu des palettes érigées en barricade ce matin. Tous se connaissaient, ces deux agents décédés et leurs trois collègues gravement blessés, toujours hospitalisés ce matin. Le député du Calvados et le préfet étaient là, dans la cour de la prison, avec les personnels de la pénitentiaire. Des personnels profondément meurtris, mais aussi en colère. Le préfet a d'ailleurs été interpellé par un syndicaliste suite à la minute de silence. Il y en a marre de voir des collègues tomber, a-t-il lancé les larmes aux yeux. Le préfet a dit avoir entendu leurs douleurs et leurs revendications. Les syndicats de la pénitentiaire demandent plus d'agents, moins de détention et plus de recours à la visioconférence pour limiter les transferts judiciaires, notamment. L'opération prison morte se poursuit ici à Caen, au moins jusqu'à l'issue de la réunion de l'intersyndicale avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, prévue à 13h.
Et concernant les trois agents blessés, tous sont encore hospitalisés, dont l'un dans un état grave. La mairie de Paris annonce la levée du préavis de grève des éboueurs, préavis qui concernait notamment la période des Jeux Olympiques. Les agents de la propreté ont obtenu la revalorisation de 80 euros d'une prime mensuelle et l'ouverture de négociations sur d'autres sujets, notamment la prime JO. Estelle, on passe aux courses ?
Mais tout à fait, avec le quintet qui a lieu à 13h55 sur la grande piste de Vincennes. Il ne sont plus que 14 trotteurs à prendre part à cette compétition parcourue sur la distance des 2850 mètres, avec un seul poteau de départ, puisque les numéros 2 et 9 ont été déclarés non partants.
Et quel est votre bon plan ?
Eh bien écoutez, aujourd'hui on va partir sur le numéro 16, Epsom Defray. Il est un vrai spécialiste sur cette piste et il est très confirmé à ce niveau de compétition. Il doit donc viser le podium aujourd'hui.
RMC, c'était les tuyaux d'Estelle.
Vous écoutez RMC, il est midi 5 tout de suite, c'est Estelle Midi avec Estelle Denis.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On va passer 3 heures ensemble, 3 heures de direct. Avec tout d'abord à mes côtés aujourd'hui, Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
On sera également durant ces 3 heures avec Thierry Moreau, journaliste média, mais pas que. Bonjour Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Et je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre nouvelle recrue, Mathilde bonjour. Caillard, militante écolo. Vous l'avez peut-être vu déjà danser en tête des manifs contre la réforme des retraites ou encore pour le climat. Bonjour Mathilde.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation.
Ouais, vous allez voir, on est très sympa, surtout le monsieur qui est à côté de vous, le journaliste et écrivain Fred Hermel, c'est notre Émile Zola à nous. Bonjour Fred.
J'adore mettre des militantes écolos à côté de moi, j'adore. Je suis ravi. Hein.
Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Mais je trouve que c'est une bonne association.
Ça va ?
Oui, très bien, très bien. Allez, au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, la sidération après l'attaque du fourgon pénitentiaire qui a causé la mort de 2 agents hier. L'État est-il désormais dépassé par l'ultra-violence ? Vos réactions, vos commentaires au 32-16 et sur l'appli RMC. On va parler à 12h30 de la fermeture de plusieurs patinoires en France pour des raisons écologiques et économiques. Est-ce qu'il faut en finir avec les patinoires ? À 13h, la Cour des comptes qui préconise l'autodéclaration des arrêts maladie de très courte durée sans passer par le médecin pour ou contre. À 13h30, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. À 14h, on se posera cette question à 11 jours de la fête des mères. Faut-il remplacer la fête des mères par la fête des gens qu'on aime ? Bah oui, de plus en plus d'établissements scolaires veulent faire ça. Et puis à 14h30, ce sera RMC Conso. On parlera du beurre. Lequel choisir ? Salé, doux, de baratte ou allégé, la margarine est-elle une bonne alternative ? On en parlera avec Charlotte Méritant. Et puis on vous fait gagner beaucoup d'argent aujourd'hui sur RMC.
Oui, vous allez pouvoir, comme depuis le début de cette semaine, remporter jusqu'à 20 000 euros. C'est comme c'est ça énorme. Tous les jours, 100 000 euros en jeu cette semaine. Dès que vous entendez cette alerte, c'est la roue RMC. Vous aurez alors 5 minutes top chrono pour vous inscrire en envoyant roue par SMS au 73216. Roue par SMS au 73216. Restez bien à l'écoute d'RMC parce que cette alerte, elle peut tomber à tout moment.
RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est bien sûr l'attaque d'un fourgon pénitentiaire hier qui a causé la mort de 2 agents qui transportaient un détenu qui a réussi à s'échapper. Une attaque ultra-violente dénoncée par toute la classe politique et notamment par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui évoque des agents abattus comme des chiens par des hommes pour qui la vie ne vaut rien. Des mots très forts. Rémi, la France est sidérée après cette attaque.
Ouais, sidération d'abord au sein même des rangs des personnels pénitentiaires. Jérôme Massip est le secrétaire général national du syndicat pénitentiaire des surveillants et il évoque des collègues chaos debout face à un déchaînement de violence jamais vu en 35 ans de carrière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est également revenu sur ce drame ce matin pour dénoncer la barbarie avec laquelle ces hommes s'en sont pris à ces agents de sang-froid. Il appelle à faire le procès de cette sauvagerie qui touche notre société, avant de s'en prendre également aux consommateurs de drogue. Il faut savoir que l'évadé d'hier est un trafiquant de stupéfiants. Et selon lui, on ne peut pas à la fois pleurer les veuves et les orphelins du péage de l'Eure et continuer à fumer tranquillement son joint. Chacun est responsable. Réaction également dans l'opposition. Le président du RN, Jordan Bardella, dénonce une véritable sauvagerie qui s'abat chaque jour sur la France. Alors qu'Éric Ciotti, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, évoque lui la pire des barbaries.
Alors, l'État est-il désormais dépassé par l'ultra-violence ? Fred Hermel.
Oui, bien entendu, l'État, mais nous sommes tous dépassés par l'ultra-violence. Il n'y a pas que tout le monde, voilà, dans notre vie quotidienne, on est dépassé par cela. Vous savez, j'ai vécu longtemps en Espagne et j'ai connu beaucoup de latino-américains. Mm-hmm. C'est-à-dire des gens qui avaient fui le Mexique, qui avaient fui même l'Argentine, Venezuela, parce qu'ils en avaient marre de la violence. Et on est en train de retrouver en France cette ultra-violence qu'il y a toujours et qu'il y avait là-bas en Amérique latine. C'est-à-dire où tous les témoignages hier de gens spécialistes de ces questions de transfert de prisonniers, de policiers, etc., c'est ce qui s'est passé hier est du jamais vu en France. C'est-à-dire on a franchi une étape. Nous sommes entrés dans une nouvelle société. Une société a remplacé l'autre, c'est la fin de l'insouciance. C'est-à-dire nous sommes entrés dans une société de l'ultra-violence où l'agression ou la mort peut être pour chacun d'entre nous au coin du métro, au coin de la rue. Et ça, franchement, je ne pensais pas, moi qui suis né en 70, voir ça de mes yeux.
Après, c'est un métier risqué, agent pénitentiaire, on le sait. C'est plus risqué que.
Il faut se rappeler que ce n'était pas arrivé depuis la mort d'un agent pénitentiaire dans l'exercice de ses fonctions depuis 1992.
Depuis 30 ans.
Oui, mais la question, c'est pas simplement ce qui s'est passé hier, c'est que dans chaque secteur de la société, il y a une augmentation de la violence. Même la simple violence est verbale au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est plus violent. Tout rapport humain est plus violent qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Et sincèrement, je suis né en 70, je voulais terminer cette phrase. Je suis né en 70, je ne pensais jamais voir ça dans mon pays qui s'appelle la France. On est en train d'entrer dans une nouvelle époque.
Après, ce qui est sidérant, c'est qu'on a tous vu ces images. Hein, c'est le manque d'affect, le sang-froid. Je veux dire, les tueurs arrivent et ils tirent. Il n'y a pas d'hésitation.
Pour ceux qui n'auraient pas vu les images, et on le comprend. Oui. Mais c'est vrai qu'on les voit tirer à bout portant sur les agents pénitentiaires, à bout portant donc avec des armes de guerre, au milieu du trafic. Ça se passe au péage et on voit les camions, les voitures, un bus qui continue à passer sur les côtés. Quoi.
Et des gens qui se mettent à plat ventre dans le bus. Quoi. Et aussi, ce qui est terrible là aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, où il y a des gamins, enfin des ados, qui sont dans le bus, et qui plaisantent, qui rigolent, en train de voir... C'est-à-dire que même la perception de la violence...
Je pense qu'ils ne se rendent pas compte.
Mais oui, mais ça, c'est grave. Si à 15-16 ans, tu ne te rends pas compte que la mort de quelqu'un, c'est grave, c'est qu'il y a un problème.
Est-ce que l'État peut encore faire quelque chose, Mathilde Caillard? On se dit, en voyant effectivement ce qui s'est passé hier, que... L'État est totalement impuissant, quoi.
Je pense, la première chose qu'on peut dire quand on voit ces images qui sont vraiment tragiques, c'est évidemment apporter toute sa compassion, tout son soutien aux victimes, aux familles des victimes et à l'ensemble du personnel pénitentiaire. Après, il faut évidemment le dire, tu l'as dit, ça fait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de meurtre, et heureusement, de personnel pénitentiaire dans l'exercice de leur fonction et de leur travail. Je pense que c'est un peu triste aussi de s'intéresser à la condition de travail du personnel pénitentiaire uniquement quand il y a un mort. Parce qu'en fait, toute l'année, ça fait des mois et des mois et des années qu'ils ont des revendications très claires de choses qui pourraient complètement améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Parce que, faut pas oublier non plus ce qu'est l'objectif de la prison initialement. C'est aussi de nous protéger en tant que société, à la fois de mettre hors d'état de nuire les personnes dangereuses, mais aussi pour imaginer une réinsertion future ensuite, une fois qu'elles sortent de prison. Et en fait, si jamais les conditions ne sont pas réunies pour que les personnels pénitentiaires ne peuvent pas exercer leur travail dans des bonnes conditions, en fait, ça pose un vrai problème. Et ensuite,
il y a beaucoup de réactions qui disent on aurait pu mettre un fourgon en plus, des agents en plus, mais en fait, le problème, c'est que on manque d'agents, on manque de moyens, et en fait, personne ne pouvait savoir concrètement.
Après, la réponse, elle n'est pas tout le temps sécuritaire. Par exemple, moi, j'ai lu les revendications, par exemple, directement des syndicats. Ils expriment, en fait, ils disent, j'en ai marre parfois, notamment quand il y a des interactions entre des prisonniers et des juges. En fait, parfois, ils doivent faire des déplacements de 300 km pour juste une signature. En fait, la signature, pourquoi pas les juges se déplacent aussi, ils peuvent se déplacer dans les prisons directement pour faire ce genre de choses. Donc il y a quand même des choses à la marge qui ne sont pas sécuritaires et qui représentent peu de coûts. Un visioconférence, ça coûte rien.
Une signature électronique, elle a raison.
Je suis d'accord, mais après, et là je vais prendre la défense des gens qui sont détenus, quand tu te défends devant un juge, il faut que tu sois présent. Je veux dire, si ça se fait par visioconférence, c'est pas la même chose.
Pour les procès.
C'est un interrogatoire, tu vois. Franchement, ils auraient pu le faire en visio.
Un interrogatoire. Je suis désolé, les droits de la défense, les droits de la personne qui est mise en examen, qui est.
Moi, je pense d'abord à la sécurité des gens.
Je suis d'accord avec toi, mais il faut être en face à face par rapport au juge, avec le juge. Sinon, on sait très bien, tu te défends pas de la même manière, tu ne t'expliques pas de la même manière à travers un écran. Ça me paraît évident.
Thierry Moreau, c'est vrai qu'on voilà, on se demande quoi faire aujourd'hui pour éviter que ça se reproduise et pour éviter de revoir de telles scènes, même dans d'autres secteurs de la société.
Il y a deux choses qu'on pourrait déjà faire. C'est d'abord les moyens. Aujourd'hui, la justice, même si des efforts considérables ont été faits ces dernières années, on est quand même à un budget deux fois inférieur à celui que l'Allemagne consacre à sa justice. Donc ça veut dire qu'on a un problème avec l'argent qui est mis sur ce secteur-là. Alors c'est de l'argent qui se voit pas, c'est de l'argent qui est peut-être pas glamour à dépenser, mais c'est de l'argent qui peut sauver des vies. Donc c'est important d'y comprendre. Et deuxième chose, ce qui m'a frappé en écoutant depuis deux jours justement ceux qui connaissent le mieux le problème, c'est-à-dire les surveillants pénitentiaires, bah ils disent plein de choses. Alors déjà au-delà de l'émotion, et on est évidemment à leur côté parce que leurs déclarations sont toujours au début très empreintes d'émotion, mais quand on les écoute, on attend des choses incroyables. Par exemple, faire une extraction judiciaire pour aller signer des papiers de divorce. Ben non, comme vous le disiez, il y a la signature électronique.
Bien sûr.
La dotation des gilets lourds. Eh ben, il n'y a pas assez de gilets lourds. Mince.
C'est-à-dire gilets pare-balles.
Gilets pare-balles lourds. Parce qu'il y a
les médecins avaient pas de blouse pendant le Covid.
Ils avaient des gilets pare-balles qui peuvent arrêter des balles de 9 mm. Je parle d'un témoignage d'un agent pénitentiaire. Mais pas les armes de guerre. Donc, un gilet pare-balles lourd. Il nous expliquait, un autre agent expliquait que pour avoir une bombe lacrymogène quand on est surveillant pénitentiaire, c'est tout un processus administratif. Voilà, il faut construire des prisons. On a été capable, pour les JO par exemple, de construire des bâtiments en réduisant le temps de recours possible de l'installation et de construction de bâtiments. Pourquoi ne pas adopter le même système pour construire des prisons dans des endroits très reculés, où il n'y a pas beaucoup de population? Pourquoi ne pas aussi réfléchir aux QHS? On les a supprimés en 81.
Les cartes de haute sécurité.
Aux cartes de haute sécurité, pardon. Voire créer des prisons de haute sécurité. C'était il y a 40 ans. Notre société, elle a évolué en 40 ans. Donc peut-être qu'il faut réfléchir. Je ne suis pas forcément pour, mais peut-être qu'il faut réfléchir à tout ça. Tout ça pour dire qu'il y a des solutions, mais il faut des moyens. Il faut aussi distinguer. Il y a 60% des détenus qui ne posent aucun problème, mais il y en a 40% aujourd'hui qui posent de très gros problèmes. Et pour cela, on n'est pas armé. Le personnel pénitentiaire n'est pas armé aujourd'hui, dans tous les sens du terme, le mot armé, pour faire son travail. Et c'est terrible. Et la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé d'eux en disant que c'était un métier de première ligne, qui était un peu sous-estimé et sous-évalué dans notre société. Métier difficile, dangereux et mal payé. Eh ben, on en a eu une illustration là. On peut ne pas rentrer chez soi le soir quand on est un surveillant pénitentiaire, et ça, c'est pas possible.
Alors, on est avec Fred, qui est un ancien membre du GIGN, qui était déjà intervenu d'ailleurs dans Estelle Midi. Bonjour Fred.
Oui, bonjour Estelle. Bonjour.
Et j'imagine, Fred, que vous êtes extrêmement touché par ce qui s'est passé hier, évidemment. On se pose cette question, est-ce que l'État est dépassé par l'ultra-violence? Vous, en tant qu'ancien membre du GIGN, est-ce que vous dites, c'est mort, on ne peut plus rien faire?
Alors, c'est mort, non. Alors, heureusement que c'est pas mort, sinon on quitte le pays.
Même quand on voit ce qui s'est passé hier, on peut se poser des questions.
L'État est dépassé, mais depuis longtemps. Depuis Sarkozy, il est dépassé. Et Sarkozy nous a fait espérer beaucoup de choses. C'est peut-être lui qui nous a le plus plombé le pays, presque. Moi, oui, l'État est dépassé à partir du moment déjà où vous mettez Dupond-Moretti, ministre de la Justice, alors qu'il a défendu le pire terroriste que la France ait connu. Déjà, par rapport aux victimes, par rapport à...
Oui, mais là, c'est autre chose. Quand on est avocat...
J'y viens. Pourquoi l'État est dépassé? Alors oui, il faut des moyens, j'entendais là, il faut des moyens, ça c'est évident, mais il faut surtout des hommes, avec du courage. Je dis courage parce que je suis à l'antenne et que je me retiens de dire d'autres mots, mais il faut surtout du courage en fait. Bizarrement, vous avez...
Mais c'est
fait
quoi avoir du courage?
Mais du courage déjà, c'est pas être la marionnette de l'Europe déjà, à vouloir absolument qu'il y ait un gars par cellule dans les prisons, etc. Il faut mettre des vraies sanctions. La question qu'on peut se poser, c'est ce mec-là, il a eu 15 condamnations.
Ouais.
Combien d'années de prison?
Là, il y en avait encore qui devaient être jugés. Donc,
il n'était pas condamné pour les faits les plus graves pour lesquels il est...
15 condamnations, combien d'années de prison?
Il avait déjà beaucoup de condamnations entre l'âge de 11 et 14 ans.
Déjà,
qu'est-ce qu'on fait, Fred?
Il a 30 ans, ça m'étonnerait qu'il ait fait 15 ans de prison.
D'accord, mais ok, et qu'est-ce qu'on fait? On met en prison à vie? La peine de mort n'existe plus en France, donc qu'est-ce qu'on fait?
Oui, bah alors là, il va peut-être falloir y réfléchir.
Non, mais là, c'est un autre débat, là. Et on ne peut pas parler à chaud comme ça, c'est pas possible.
Mais on ne peut pas parler à chaud. Moi, il y a beaucoup de choses qui me chagrinent dans ce qui s'est passé. Déjà, c'est que les images, déjà, elles ont été diffusées.
Je suis d'accord. Et on les a diffusées, nous aussi, en se posant beaucoup de questions.
Ceux qui diffusent ces images-là, franchement, il faut les punir sévèrement parce qu'ils ne se mettent pas à la place des familles. Il y a des veuves et il y a des enfants qui vont revoir ces images. En fait, ils vont se mettre à la place de leur père et de leur mari. Mais c'est insupportable.
Fred,
en fait.
Je vous le dis, on s'est beaucoup, on a nous-mêmes diffusé ces images, on s'est beaucoup posé la question. Mais en fait, on s'est beaucoup posé la question et on s'est dit, en fait, ces images, elles ont déjà été diffusées partout. On ne les aurait jamais diffusées si on avait été les premiers. Mmh. Mais le fait qu'elles sont diffusées partout font que on a, je veux dire, on a diffusé ces images. Mais je vous le dis, on s'est posé beaucoup la question. On a eu un débat là-dessus. Donc je comprends évidemment.
Ça montre l'horreur.
Bien sûr.
Mais je pense que c'est du.
Et il y a un moment où effectivement, il y a, je pense, de la pudeur et de la compassion à avoir envers les familles. Ça c'est évident. Et c'est en ça que ça me gênait aussi. Mais après. Ces images, elles sont révélatrices de quelque chose et je pense qu'il est bon aussi que la société voit à quoi elle peut être confrontée, à quoi elle est confrontée aujourd'hui et à quoi elle peut être confrontée dans
Exactement.
Le futur.
Moi, ce qui me fait un peu peur aussi dans les images que j'ai vues, alors moi, j'ai réussi à avoir les images bien avant vous, j'imagine, parce qu'on a des réseaux nous, où voilà, on diffuse des images. Voilà. Ça reste entre nous, ça. Ces images-là restent en interne, Jean-Amaury. Ouais. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est qu'ils utilisent les mêmes modes opératoires que le GIGN, par exemple, utilise sur des GoFast. D'où ils sortent ça, là. Voilà. Les reportages que vous voyez à la télé, les compléments d'enquête, etc., il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Ils se nourrissent de tout ça pour peaufiner
ils
leur.
Ils ont pas besoin des compléments d'enquête pour apprendre. Ouais.
Il suffit de regarder des séries. La dernière scène, on dirait. Là, franchement, ce qu'on a vu hier, c'est la dernière scène de la série BRI qui se passe sur un péage avec des mecs qui sont arrêtés et tout. Donc en fait, je veux dire, ils ont pas besoin de regarder 24 heures avec la police. Je veux dire pour savoir comment on attaque un fourgon quoi.
Après voilà, vous parliez de moyens, effectivement, hein, du 9 mm contre de la 7,62. Bah, ça fait pas le poids.
Ouais, mais on va pas mettre des Kalachnikov aux gardiens de pénitentiaires, enfin, genre aux agents pénitentiaires.
Mais vous avez les mêmes munitions avec d'autres armes que ceux qu'utilisent la police et la gendarmerie.
Si je peux me permettre d'intervenir, Estelle, il a fallu attendre, et je pense que Fred va pas me démentir, il a fallu attendre, et c'est dramatique, les attentats de 2015 et les attentats qui ont suivi pour que, enfin, les services de gendarmerie, je parle des brigades territoriales, ceux qui sont à la campagne, etc., les policiers en général, soient armés d'armes automatiques et de véritables gilets pare-balles de façon systématique aujourd'hui. Il a fallu attendre la réalité terroriste pour que, enfin, les policiers et les gendarmes soient aujourd'hui correctement équipés.
Malheureusement, toujours une longueur d'avance.
Oui, mais c'est comme le dopage dans le sport.
L'État est long à réagir.
Oui. Merci en tout cas Fred d'avoir été avec nous, ancien membre du GIGN. Notre invité sur ce débat, c'est Vincent Le Dinert. Il est secrétaire national de l'ensemble des personnes de l'administration pénitentiaire, le SNEPAP-FSU. Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle et bonjour aux chroniqueurs.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Vincent. J'imagine que, évidemment, c'est aujourd'hui vous êtes en deuil, évidemment, parce que deux de vos collègues ont été tués hier. Est-ce que aujourd'hui vous vous dites qu'on est totalement dépassé par cette violence? Est-ce que vous dites que il faut vous armer plus lourdement? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme constat?
Excusez-moi, déjà, j'ai la gorge assez nouée quand même d'en parler. Je suis avec mes collègues. Du Prev, parce que je suis sur le Mans actuellement et qui côtoie et qui travaillait avec les collègues qui ont été abattus, assassinés. C'est de la barbarie ce qui s'est produit hier.
Exactement.
Ils n'étaient pas venus juste pour évader le détenu, ils étaient venus pour tuer les surveillants et faire sortir le détenu. Donc laissez-moi avoir une pensée émue d'abord pour les femmes seules et pour les enfants.
Oui, on entend votre émotion, hein. Vincent, l'un des gardiens de la paix était papa de deux jumeaux et un autre, sa femme était gardien de prison, bien sûr, et l'autre en fait avait son épouse qui était enceinte
de cinq mois. Écoutez, les premières constatations qu'on peut faire, puisque je suis avec les collègues du Prège, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, il y a pour nous du vrai et du faux. Il y a des moyens qui ont déjà été demandés depuis plusieurs années. Je vais juste parler de moyens d'abord. Les véhicules, on a tous des véhicules blancs estampillés administration pénitentiaire qui se voient à 3 km.
Oui.
Qui sont faits de tôle et de plastique comme un véhicule lambda. On a D'accord. des Kangoo, des fourgons, c'est de la tôle, du plastique.
Ah, mais c'est pas blindé vos fourgons?
Ah non.
Non, c'est le Kangoo du quotidien et c'est le trafic, excusez-moi de prendre des noms de marques, mais on s'en fiche.
Oui.
Ce sont des fourgons classiques, juste adaptés avec un gyrophare et un intérieur cellulaire pour transporter les détenus. ça n'est pas blindé, ça n'est pas banalisé, et c'est une des premières demandes et revendications des collègues, et ça depuis longtemps, pour ne pas être ciblé, qu'ils aient des véhicules déjà balisés. Voilà. Donc, c'est les premières revendications. Quand, il y a 10 ans, les collègues ont récupéré les extractions judiciaires, c'était dévolu avant à la police et à la gendarmerie, vous le savez tous, vous en avez parlé.
Ouais.
Ils avaient deux fois plus de moyens que nous, on a d'allouer au ministère de la Justice pour s'occuper des extractions judiciaires. Il y avait deux fois plus d'effectifs, police, gendarmerie confondus, qu'on en a, nous, dans le ministère de la Justice. Et on a de plus en plus de détenus. Qui dit plus en plus de détenus, dit de plus en plus d'extractions judiciaires. Donc forcément, le compte n'y est pas.
C'est 600 par an, je crois, hein, c'est ça. Mais,
est-ce que ce serait possible, plutôt que de faire une extraction judiciaire, effectivement, de faire plus de visio, on va dire?
Mais des visios, là, je vous prends un exemple. Ce matin, je suis devant la prison. Si vous entendez des crépitements, c'est des pneus qui sont en train de brûler. Ce matin, ils ont voulu sortir un détenu. Nous, on a bloqué, on a refusé. Pourquoi? Parce que c'est le magistrat qui a refusé la visioconférence et non la personne détenue. Donc, vous vous rendez compte?
Le magistrat
peut se déplacer. On peut se le faire en visio. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire en visio. Et les magistrats, les portes de prison leur sont grandes ouvertes. On appartient au même ministère. Ils peuvent eux-mêmes se déplacer. Quand j'entendais tout à l'heure, oui, il faut le droit, la défense, l'avocat. Quand vous passez en commission de discipline, les détenus, eh ben, ils demandent à leur avocat de venir en prison. Eh ben, quand ils font une visioconférence, on peut respecter le droit à la défense. L'avocat se déplace en visioconférence avec la personne détenue. Et il sera face à son juge et il sera défendu comme tout le monde sera défendu et le droit sera respecté. Donc déjà, il y a énormément de choses qu'on peut changer. Mais ça, il faut avoir du courage politique. Et pour l'instant, le courage, je ne le vois pas trop.
Mais malheureusement, il est possible qu'avec ce qui s'est passé hier, il y ait des changements. Justement, c'est terrible qu'il faille en arriver là pour avoir des changements. Mais les choses vont forcément bouger. C'est là, impossible avec ce qui s'est passé hier, Vincent, d'en rester comme ça. C'est pas possible.
Il faut un état-major de l'administration pénitentiaire parce qu'on a des problèmes de tous bords, de tous niveaux. Nos prisons explosent. On a les Jeux Olympiques qui arrivent. On ne sait même pas où est-ce qu'on va pouvoir mettre des personnes. Si jamais il y a des fêtes de délinquance sur Paris pendant les Jeux Olympiques, on ne sait même pas où est-ce qu'on va pouvoir mettre les détenus. On a déjà 150% de taux d'occupation. On a des matelas au sol à ras-bord. Le quotidien dans les prisons, c'est dur. Les collègues en extraction judiciaire, c'est dur. Ils n'ont pas leur temps de repos. Ils finissent des missions à 2h du matin. On leur demande de partir à 7h. Comment voulez-vous que ce soit cohérent? Il n'y a rien de cohérent. Il faut un état-major. Il faut tout poser sur la table. Et construire des places de prison, c'est bien beau. Mais plus on en construit, ça fait 16 ans que je suis dans cette administration. J'en ai connu des plans de construction. Mais plus on construit de prison, plus on les remplit.
Mais
il y a peut-être aussi des gens en prison qui n'ont pas leur place.
Oui, c'est vrai.
Excusez-moi de vous dire.
Oui, qui pourraient du bracelet, bien sûr.
On a des services de psychiatrie, des services de soins qui sont à la dérive. On préfère enfermer en prison des personnes qui sont malades.
Et ça crée de la délinquance en plus.
Parce qu'on ne peut pas les soigner.
Oui, mais il y en a beaucoup et malheureusement, les places en psychiatrie, il n'y en a plus non plus. Donc en fait, c'est ça. C'est que l'État est dépassé par la violence et par effectivement l'état psychiatrique des prisonniers parmi les personnes dans la rue. Il y a énormément de personnes dont l'état psychiatrique pose question.
Mais t'as totalement raison, et on en parlait encore il y a quelques semaines, parce que les Républicains ont sorti un vaste plan pour lutter, pour ramener la sécurité en France. L'une des propositions d'Éric Ciotti, c'était des courtes peines de prison, notamment d'une semaine, voilà, des courtes peines, mais il n'y a pas la place. Oui. Donc c'est totalement... Aujourd'hui, les prisons sont saturées.
Merci en tout cas Vincent Le Dinet d'avoir été avec nous. Voilà, on a entendu votre émotion bien sûr au lendemain de ce drame avec deux agents pénitentiaires tués à un péage dans l'Eure. Rémi, on termine avec un message et le résultat de notre consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Beaucoup de messages qui vont dans le même sens. Allez, celui de Greg par exemple qui nous dit: vous n'avez-vous pas l'impression que beaucoup de sujets évoqués dans vos émissions se rejoignent et nous amènent à un constat: l'État est défaillant dans toutes ses fonctions régaliennes depuis des décennies. Le laxisme, le manque de courage de nos dirigeants politiques nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui.
Et le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi: l'État est-il dépassé par l'ultra-violence?
Alors là, c'est assez rare qu'on ait ce type de score, parce que là c'est massif. Enfin, c'est 95% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Il n'y a pas de nuance. Oui, l'État est dépassé.
Dans un instant, un sujet beaucoup plus léger. On va parler de la fermeture de plusieurs patinoires en France. Est-ce qu'il faut en finir avec les patinoires pour des raisons économiques ou écologiques? On en discute avec vous dans un instant au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
Tout à l'heure, Vincent Moscato et son équipe débarquent à l'Union Bordeaux-Bègle pour une émission spéciale.
Oui, bien sûr, en toute modestie, c'est quand même moi qui leur ai fait gagner leur dernier titre.
Ah bon? C'était quand?
En 91.
Moi, j'étais même pas née.
Oh, ça va le jeunisme. Oh, nié, j'étais pas née.
Le Super Moscato Show, en direct de l'UBB, avec Louis Bialbiaré, Nicolas Deporter, Nance Ducoing et Mathieu Jalibert.
Eh ben, ça Moscato, quand même.
C'est tout à l'heure à 15h sur RMC.
Le Super Moscato Show sur RMC avec le Kiosque à Pizza.
Le Kiosque à Pizza.
Le Kiosque à Pizza, partenaire de la troisième mi-temps.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou. Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500 € seulement. Moins de 1 500 € la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, là, ça envoie du bois.
Quoi ?
Des bâtonnets, patron. En ce moment, les 8 bâtonnets glacés vanille amande, dont un offert, sont à 3,09€.
Quoi ?
Les 8 bâtonnets glacés sont à 3,09€. Oh, j'en ai déjà l'eau à la bûche.
Ton humour me laisse de glace. T'es mal, hein ?
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 4,60€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Excusez-moi, monsieur.
Oui, ma grande.
C'est au sujet de vos t-shirts, y a pas un moins cher?
Ah non, désolé, ma grande.
Arrêtez de m'appeler ma grande. Si un truc que j'aimerais voir grande, c'est vos promos.
Et on n'est pas chez Sport 2000 ici.
Conseil d'expert, venez chez Sport 2000. Jusqu'au 26 mai, pour 3 t-shirts achetés, le t-shirt de marque est à 9,99€. Sport
2000. Ça match.
Condition liste des magasins participants sur sport2000.fr.
Ça, c'est vous dans votre camionnette pour votre rendez-vous du matin. Et ça, c'est votre journée qui vient de passer à 100 à l'heure. Eh oui, vous, les professionnels du bâtiment, vous n'avez pas de temps à perdre. Alors chez Leroy Merlin, on vous en fait gagner. Avec le retrait de vos marchandises en 2 heures, même à la cour des matériaux, en commandant par téléphone ou sur notre site.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Voir les avantages sur leroymerlin.fr.
Total Energy présente...
Papa, t'es encore sur ton téléphone?
Ouais, mais là, je souscris un contrat d'électricité pour ma boîte. Total Energy offre 100€ pour les pros.
Profitez de 100€ offerts en souscrivant une offre d'électricité pour votre entreprise au 30,99€. Total Energy, élu service client de l'année 2024. Dans la catégorie fournisseur d'énergie pour entreprises, plus d'infos sur escda.fr. Promo valable pour les entreprises jusqu'au 30 juin 2024, par condition sur totalenergy.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé, on fait revenir toute la famille. On les fait mijoter dans l'herbe du jardin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
Intersport, promotivé comme jamais.
Bon, je crois que nos clients en ont assez des chemins tout tracés.
Eh bah, direction le sentier promo avec Nakamura.
Ah bah voilà, ça c'est de l'aventure.
Jusqu'au 2 juin chez Intersport, c'est plus de chemin pour tous les budgets. Le VTT Nakamura Summit Limited est à 399,99€ au lieu de 599,99€, soit 200€ de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Avec But, on peut être pris d'une soudaine envie de changer de canapé, hein. Ah oui, hein, vous savez pourquoi?
Chez But, la nouvelle collection est arrivée avec le canapé d'angle 3 places avec méridienne réversible Adrian 2. Son prix, 349,99€ seulement.
Eh ben voilà, ça fait envie.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 33, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, avec la petite nouvelle de la bande, Mathilde Caillard, militante écologiste, et avec Fred Hermel. Et tout de suite, on va s'intéresser à la fermeture du jour. C'est celle de la patinoire de Boulogne-Billancourt en région parisienne. Alors qu'une pétition pour la sauvegarde du lieu a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures, eh bien la mairie de Boulogne-Billancourt souhaite, elle, fermer la patinoire pour des raisons économiques et écologiques. Et ce n'est pas un cas isolé, Rémi. Nos patinoires sont en danger.
Ouais, exemple avec la patinoire de Bourgueil. Nous sommes en Indre-et-Loire, un peu moins de 4000 habitants dans cette commune. Pourquoi je vous parle de cette patinoire? Parce que c'est symptomatique de ce qui se passe en de nombreux endroits en France. Un équipement qui vieillit, des coûts de rénovation élevés et surtout, avec l'explosion des prix de l'énergie, une facture dantesque. Selon la municipalité, à elle seule, la patinoire de Bourgueil représentait 44% des dépenses d'électricité de l'ensemble des bâtiments communaux. La décision est tombée en février dernier. La patinoire a définitivement fermé ses portes le 20 avril dernier avant d'être transformée en un lieu sportif et social. Au Grand Dam, on imagine des clubs de sport de glace locaux. S'ils comptaient se replier sur la patinoire de Jouer-les-Tours, qui est à 40 minutes en voiture, c'est ce qu'on leur avait dit au départ, ça ne sera même plus possible. Pourquoi ? Parce que la patinoire de Jouer-les-Tours vient de fermer. En tout cas, elle va fermer dans les jours qui viennent. Ce sera le 2 juin prochain. Bourgueil, Jouer-les-Tours, mais aussi, et par exemple, Alençon, Laon ou encore Castres, la liste des patinoires qui ferment s'allonge quand, pour faire face aux dépenses, certaines structures ne ferment pas durant plusieurs mois, durant l'année. Voilà, certaines municipalités, en essayant de ne pas fermer la patinoire, aujourd'hui, il y a des patinoires qui sont fermées durant 6 mois de l'année.
Et il y a 200 patinoires en France, mais c'est vrai que voilà, le rythme des fermetures s'accélère. Est-ce qu'il faut en finir avec les patinoires pour des raisons économiques ou écologiques ? Mathilde Caillard.
Alors moi déjà, je ne sais pas faire de patin à glace, mais je sais que, autour de moi en tout cas, ma sœur aime beaucoup. J'y allais beaucoup aussi avec elle en famille, je m'accrochais sur le bord et j'étais autour. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même un espace hyper important pour les familles, les jeunes, notamment dans les zones périurbaines, etc. où c'est une activité qui fait du bien, qui fait plaisir. Et comme quand c'était patinoire municipale, mais c'est aussi le cas pour les piscines municipales, ce sont donc des services publics payés, financés par les collectivités pour le bonheur de toutes et tous, des plus petits et des plus grands. Je pense que faisons attention à ne pas utiliser justement des exemples comme ça, les patinoires ou même les piscines municipales, comme chose pour faire détester l'écologie par les gens en leur disant, parce qu'en fait il y a quand même des priorités. Effectivement, la hausse des prix de l'énergie et de l'électricité font que les piscines municipales, les patinoires, beaucoup de choses comme ça sont menacées de fermeture. Mais interrogeons-nous pourquoi. En fait, il y a cette hausse des prix de l'électricité. Comment on pourrait la réguler ? Par exemple, en ne sortant pas les collectivités des tarifs réglementés de vente de l'électricité, tout simplement, pour ne pas avoir des factures qui augmentent comme ça.
Après, ça coûte cher quand même. De toute façon,
ça coûte cher quand même. Mais en fait, il faudra faire des choix, que ce soit en termes de ressources ou en termes même d'énergie. Il va falloir faire des choix aussi pour répondre à la crise écologique. Et par exemple, moi, il y a des choses que j'ai envie de voir interdire plus que les patinoires. Par exemple, les patinoires... En fait, pour moi, l'énergie et les ressources, on doit les concentrer pour tout ce qui fait du bien-être pour les populations, pour les services publics, qui est accessible à toutes et tous. Après, il y a des choses comme par exemple...
Je ne veux pas supprimer les bâtiments, je préférerais supprimer autre chose, ce serait...
Alors, supprimer autre chose, ou même déjà, rénover la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, en termes d'impact écologique, est beaucoup plus important que la fermeture des patinoires.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher, la rénovation thermique des bâtiments. Oui, mais ça fait économiser énormément d'argent. En termes de factures, etc. Dans les bâtiments publics.
Les exemples, tu vois, tout ce qui est fait en Géorgie aux États-Unis, c'est le vrai exemple qu'on a dans un pays développé, c'est l'état de la Géorgie. Et en fait, c'est très décevant, en fait. Il y avait un grand plan de rénovation thermique et les économies sont finalement pas si importantes que ça.
En fait, ça dépend d'où tu pars.
Non, mais oui, et ça dépend aussi. Il faut voir aussi plus le bâti va vieillir et plus il va être. Enfin, est-ce qu'il y a la rénovation thermique pour les vagues de froid, mais pour les vagues de chaleur aussi. Donc, en fait, il y a plein de choses. De toute façon, en vrai, c'est efficace. Et aussi, par exemple, ce qu'on pourrait interdire, moi, je préférais, par exemple, qu'on interdise les jets privés. C'est utilisé par une ultra minorité de la population.
Minorité, justement.
Par une minorité.
Ça ne représente rien.
Alors non, quand tu le rapportes au nombre d'utilisateurs, et en plus c'est en expansion. C'est en progression.
Fred, je sais que dès qu'il y a le mot interdiction, de toute façon ça te hérisse. Tu allais faire du patin aussi quand tu étais petit, par exemple.
Moi, je suis très bon en patin à glace.
Ah bon ?
Très bon patin roulette, pas roller. Moi, je suis patin roulette, moi.
Oui, très bien.
Et j'adore le patin à glace. Et je reconnais toute l'intelligence de Mathilde en disant oui, ce sont des lieux sociaux très importants.
Ouais, bah oui.
C'est-à-dire que finalement, on peut supprimer tout. Donc, en général,
il y a 30 ans, on allait draguer à la patinoire.
Mais oui.
On pourrait encore aujourd'hui, pourquoi pas.
Mais oui. Tu tombais sur les garçons.
Tu te la jouais un peu en faisant tes petits virages en arrière et tout. Mais voilà, mais bien sûr, c'est des souvenirs qu'on a.
Attends, dans la boum, on roule.
Bien sûr.
Oui, alors ce sont des lieux. À un moment, et je comprends ce que tu veux dire, on met tout sous le dos de l'écologie. En fait, maintenant, quand on veut faire des économies et faire des coupes.
Sachant qu'elle a bon dos.
Boulogne, c'est une mairie de droite, c'est pas les écolos.
Les pires.
Non, mais c'est pas eux.
Ça doit être écolo, c'est ce qu'il y a de pire.
Je sais pas, mais en tout cas.
Donc, moi, je propose un truc, c'est qu'on arrête de respirer. Parce que vous savez que quand on respire, on produit
du CO2. Non, mais on peut pas tout relativiser.
Nous sommes très carbonés, nous, les êtres humains. Non, mais il faut arrêter parce que.
Caricature.
Non, mais il y a quand même un consensus scientifique.
Non, mais après, on va se dire, on va fermer la patinoire. Ah ouais, mais les jeunes, ils glandent toute la journée, qu'est-ce qu'ils font ? Non, ce sont des lieux très importants. Donc, et moi, je me pose.
Non, mais je pense qu'il n'y a aucun écologiste qui a demandé la fermeture des patinoires, par exemple.
Ouais, ça coûte une fortune.
Ça n'existe pas.
Oui.
Pourquoi les mairies
d'accord,
ferment.
Mais c'est aussi pour le bien-être des gens.
Mais ça coûte.
Supprimons tout ce qui coûte cher.
Il y a
une réalité. Je te prends l'exemple. Je vous ai pris l'exemple très révélateur de Bourgueil. 44% de la facture d'électricité des bâtiments communaux,
c'est
la seule
patinoire. C'est pas le cas de Brumby.
Oui, mais c'est parce qu'il y a un problème aussi au niveau du marché de l'électricité.
Oui,
je te garde au chaud, Thierry. Parce que je voudrais qu'on.
Hein, enfin, la patinoire.
C'est une blague sur les lacs, mais je garde le chaud. On va prendre Bertrand en ligne, qui nous appelle des Yvelines, qui est chef d'entreprise dans le bâtiment et qui voulait réagir sur la fermeture des patinoires. Bonjour Bertrand.
Bonjour Estelle.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pour ou contre la fermeture des patinoires?
Ah bah, je suis complètement contre la fermeture des patinoires. Et notamment celle de Boulogne, évidemment.
Pourquoi? Parce que vous avez patiné là-bas?
Alors moi, j'habite maintenant dans les Yvelines, mais je suis né à Boulogne. Hein, et d'accord. J'ai grandi à Boulogne. Et j'entendais là quelqu'un qui disait c'est les équipements municipaux. Bah ouais, j'ai appris à patiner parce que en maternelle, l'école municipale m'emmenait à la patinoire de Boulogne. Mmh. Donc c'est là que j'ai appris à patiner avec mes amis. Ensuite, mes parents m'ont inscrit dans le club de hockey municipal. Donc j'ai passé ma vie sur des patins et c'est hyper formateur. Alors là, on parle du sport. Et si je vous parle de la patinoire, bah c'est ce que vous disiez, Stella. Hein. Je faisais du hockey, mais ensuite, le week-end, j'allais patiner avec des amis. Et oui, je rencontrais et je faisais le malin, parce que moi, je patinais bien puisque je faisais du hockey. Et je faisais le malin pour séduire les filles. Et évidemment, la patinoire.
Et aujourd'hui, vous dites finalement, la fermeture de cette patinoire, c'est aussi des souvenirs, voilà, pour tous ceux qui ont effectivement, qui sont un peu plus de 30 ans, mais c'est aussi des enfants qui n'apprendront pas à patiner, quoi. Parce que c'est vrai, le patin, c'est du sport, ça plaît.
Bah, en tout cas, c'est hyper brutal. Donc là, ouais, il y a un peu d'affect. Ça, c'est pour de mon point de vue. Mais je regarde, d'ailleurs, aujourd'hui, j'en parlais ce matin avec un collègue qui me disait que ça revenait à la mode chez les jeunes. En fait, moi, je parlais de ce que j'ai vécu il y a 30 ans. Mais en fait, et je l'ai vu il y a encore pas si longtemps que ça à la patinoire de Boulogne, il y a de la queue devant la patinoire le samedi soir. Moi, quand je partais d'un match, je voyais des jeunes d'aujourd'hui qui vont à la patinoire. Donc au-delà de ce que je vis, moi, dans ma pratique de sportif, la patinoire, c'est ce que certains ont dit là, c'est un espace de vie collective dans la ville. Ouais. C'est un peu comme la piscine d'une certaine manière, et ça s'adresse à un super grand nombre. Il y a 65 000 patineurs qui vont à la patinoire de Boulogne chaque année. Et je trouve ça sidérant de dire d'un coup on ferme pour de bonnes ou de mauvaises raisons. À la limite, ça n'est pas la question. C'est déjà de regarder la réalité de l'usage de l'équipement municipal.
Oui, et puis après, il y a aussi autre chose, c'est que la patinoire, ça coûte pas très cher. C'est à peu près 5 euros l'entrée. C'est moins cher qu'une place de ciné. Ah ben ouais. Voilà, c'est un peu comme la piscine municipale. Ça reste encore ça reste en fait des loisirs et du sport accessible à tous, quoi. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus que des salles de sport qui coûtent 1000 pour aller trouver de la fonte.
Il y a plein d'enfants en France, par exemple, qui savent pas nager. Et en fait, les piscines municipales, c'est complètement important, même dans l'apprentissage, le développement, l'éducation. S'il n'y a pas ces espaces-là,
on commence à supprimer des patinoires. Après, on supprimera les piscines.
Mais ça,
c'est la suite. Logique. Merci Bertrand, en tout cas, d'avoir été avec nous. Thierry, vous n'êtes pas sport du tout, mais peut-être vous avez un petit peu patiné quand même.
Jamais. Je suis peut-être une fois, mais me suis cassé la gueule, donc j'ai renoncé. Voilà. Donc c'est pas mon truc. Mais en revanche, ce que vous venez de dire est très important parce que n'oublions pas, il y a une partie des gens en France qui ne vont jamais en vacances. Et que quand les parents emmènent les enfants à la patinoire, à la piscine, c'est une sortie. C'est quelque chose qui permet de s'aérer un peu. Donc je pense qu'il faut faire attention, effectivement, à cette interdiction. Et encore une fois, cette perception qu'on a d'une écologie punitive en disant « Attention, avec les écolos, on va tout fermer », cette perception, elle existe. En tout cas, elle est perceptible sur ce genre de dossier.
Mais ça ne veut pas dire que c'est les demandes portées par les écolos.
Exactement, tu as raison de dire.
Mais le problème...
Pour ne pas faire de l'écologie.
Ça occasionne des débats sans fin parce qu'il y a des gens qui vont vous dire on peut faire des patinoires en matière plastique, mais d'autres gens vous diront qu'il y a des microplastiques, donc c'est plus polluant que la vraie patinoire. Il y en a d'autres qui vous diront faut faire du roller plutôt que de la patinoire. Enfin, c'est des débats sans fin. Je pense qu'effectivement les dossiers les plus importants, c'est le logement, la rénovation thermique, c'est les transports en commun, mais ce sont des milliards et des milliards. Là, on prend le problème par le petit bout de la lorgnette et j'ai l'impression qu'on fait des exemples.
Oui, c'est aussi ce qui intéresse les gens qui vont patiner tous les week-ends, que leur patinoire va être fermée, c'est du jour au lendemain.
Mais bien sûr.
Après, la rénovation thermique, c'est aussi tout le monde. Hein. Les gens qui n'arrivent pas à se chauffer l'hiver, c'est très concret.
Justement, la rénovation thermique et le travail sur l'énergie, vous disiez que ça coûte très très cher. Qu'il faut réfléchir aussi à des façons de fournir en énergie ces patinoires ou les bâtiments municipaux d'une autre manière que ce qu'on le fait aujourd'hui, la façon dont on le fait aujourd'hui, avec des pompes à chaleur, avec des systèmes de panneaux solaires ou d'autres moyens qui permettent en tout cas de réduire la facture énergétique, parce que c'est aussi un problème de facture pour les communes.
Évidemment. C'est d'abord des réseaux économiques. Et on se cache derrière l'écologie pour.
C'est ça.
À Boulogne, la mairie indique que la remise en glace, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont refait la patinoire, la glace de la patinoire, l'année dernière, en 2023, c'était 8 millions de litres d'eau qu'il a fallu. Sans compter, mais ce qui coûte aujourd'hui, et on l'a vu aussi avec les piscines, le coût de l'électricité. Ça coûte hyper cher. en électricité à chauffer une piscine ou à maintenir la glace sur une patinoire. Et avec l'explosion des coûts de l'énergie...
Sauf qu'on ne peut pas tout interdire, et surtout pas ce qui fait le loisir de certains Français,
mais
et quelquefois l'unique loisir de certains Français.
Les contribuables doivent être payés dans ce cas-là, dans les impôts locaux.
Le fléchage de l'argent public. Ouais.
Alors, on est avec Camille, qui nous appelle de Plachy-Buillon, et Camille, elle est ancienne patineuse. Bonjour Camille.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci
bonjour,
de m'accueillir sur le plateau, c'est gentil, merci beaucoup.
Et j'imagine Camille que vous, en tant qu'ancienne patineuse, évidemment, ça vous fait de la peine, quoi.
Oui, bien sûr, ça me fait de la peine. Moi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à la patinoire de Compiègne, dans l'Oise. Ça a été les plus belles années de ma vie, hein. Clairement, moi, le sport a toujours été ancré en moi et dans mes valeurs, et j'aimerais aussi les transmettre à mes enfants. Et c'est vrai que du coup, ça m'attriste de me dire que peut-être je ne pourrais pas emmener mes enfants patiner et leur faire découvrir ma passion. Je pense aussi à mes anciennes amies patineuses et puis aussi à mes anciennes coaches qui, elles, peut-être perdront un jour leur emploi. Il faut penser à ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au sein des patinoires, les clubs aussi, des bénévoles, des associations. C'est tout ça qui est aussi remis en cause au-delà de l'écologie. Donc oui, il y a beaucoup l'affect qui entre dans mon quand j'entends ça, c'est vrai que ça me fait beaucoup de peine. Et puis aussi après j'ai patiné à Colombes et à Colombes
ça
il y
a fermé. Temps, hein.
Voilà, ça a fermé.
La patinoire de Philippe Candeloro.
C'est voilà, ça fait très mal au cœur. Moi j'ai passé aussi de très belles années là-bas. J'ai fait du ballet sur glace aussi avec donc sa femme Olivia et c'est voilà, ça fait de la peine de voir tout ça et je me dis que oui quand vous dites que les jeunes maintenant reviennent un peu dans les patinoires, mais c'est génial parce que voilà, au lieu de les voir à faire autre chose, aller dans boîte de nuit, bah ils reviennent dans les patinoires, ils passent un super moment. Voilà, c'est top et c'est vraiment dommage parce que comme le disait sur votre plateau un chroniqueur, il y a d'autres sujets au niveau de l'écologie à voir concernant le logement, etc. Avant de s'occuper de ce genre de loisirs. Voilà, il reste plus grand chose alors qu'il faudrait peut-être les laisser en place et trouver d'autres solutions. Voilà. C'était mon petit mot que j'avais envie de partager avec vous.
Votre petit coup de gueule. Et merci beaucoup, en tout cas, Camille, d'avoir été avec nous. On sent la passion, justement, pour le patin à glace. En tout cas, après, on ne viendra pas se plaindre hein, quand on n'aura plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver.
Ah, oui.
Non, mais là, on ne viendra pas. Voilà, il ne faudra plus se plaindre. Si on n'a pas de patinoire, c'est sûr que là, on ne risque pas d'avoir des médailles d'or en patin à glace. Rémi, on termine avec des messages et le résultat de notre consultation sur Twitter.
Ouais, juste un message de Jean-Philippe qui nous dit « Moi aussi, j'ai fréquenté la patinoire qui était près de chez moi. » Chez moi aussi, elle a fermé. J'en suis triste. Maintenant, il faut accepter une réalité avec l'explosion des prix de l'énergie. Et il faut que les habitants l'acceptent. Et s'ils veulent conserver leur patinoire, il va falloir qu'ils payent beaucoup plus cher en impôts locaux.
Exactement. Faut-il en finir avec les patinoires? C'était la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Allez, c'est le nom qui l'emporte. Ça va donner un peu du baume au cœur à tous ceux qui travaillent dans les patinoires. 73% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment qu'il ne faut pas en finir avec les patinoires.
Allez, dans un instant, on aura Frédéric Simotel. Bah tiens, on va parler chauffage. Sachez que nos chaudières vont bientôt être remplacées par des réacteurs nucléaires. Et c'est pas une blague.
Bah, j'aime bien, moi.
Ah bah écoutez, vous verrez. On en parle dans un instant. Et puis à 13h, on parlera de la Cour des comptes qui préconise l'autodéclaration des arrêts maladie de très courte durée sans passer par un médecin. Pour ou contre, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
À venir sur RMC.
Ce soir, football, deux matchs en retard de Ligue 1. Nice-PSG et Reims-Marseille. Demain, spécial Euro 2024 entre 20h et minuit, Didier Deschamps annonce la liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro de foot. Et jusqu'à vendredi, jouez pour faire tourner la roue RMC et gagner jusqu'à 20 000 euros.
Ne ratez rien sur RMC, bien plus qu'une radio.
RMC Escrime. De vendredi à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De vendredi à dimanche avec RMC.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
Avec la nouvelle collection But, on peut s'offrir un canapé d'angle de toute beauté pour moins de 350 euros. À ce prix-là, à quoi bon attendre les soldes, hein? Je vous demande un peu.
En ce moment, chez But, le canapé d'angle 3 places avec méridienne réversible Adrian 2 est à 349,99 euros seulement. Venez vite le découvrir en magasin et sur but.fr.
Dans moins de 60 secondes sur RMC,
on n'arrête pas le progrès d'Estelle Midi. Il était une fois un brave papa voulant plus que jamais faire plaisir à ses petits. Course faisant, il choisit des fraises Origine France à 2,69 euros la barquette de 500 grammes chez Aldi et leur prépara une tarte aux fraises qui eut un franc succès. D'ailleurs, si jamais il en reste une petite part, moi je suis pour. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 5,38 euros le kilo, offre valable jusqu'au samedi 18 mai, info sur aldi.fr.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. Ouh. 12h33.
Go.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Salut, c'est Anthony Morel, le monsieur tech d'RMC. Est-ce que vous savez que vous pouvez maintenant écouter RMC en DAB+? Le DAB+, c'est une petite révolution, hein. C'est l'équivalent à la radio de ce qu'a été la TNT pour la télé. Un son de meilleure qualité et sans coupure grâce au numérique et surtout une écoute en continu. Plus besoin de changer de fréquence sans arrêt quand vous êtes en voiture, vous choisissez votre radio préférée par ordre alphabétique, RMC par exemple, et c'est terminé. Que ce soit sur autoroute ou à la maison, dans n'importe quelle ville de France, le DAB+, c'est l'assurance de pouvoir écouter RMC partout, tout le temps.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 51, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est On n'arrête pas le progrès avec Frédéric Simotel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Frédéric, vous allez nous faire changer de chaudière. Voilà, vous allez nous faire remplacer notre bonne vieille chaudière au fioul ou à gaz par un réacteur nucléaire.
Oui.
On plaisante, mais à peine, Frédéric, puisqu'il y a des technologies qui existent aujourd'hui pour se chauffer à l'énergie nucléaire.
Oui, alors évidemment.
Je peux avoir un petit réacteur nucléaire à côté de mon chauffe-eau.
Oui, presque. Le but, c'est quand même pas d'installer une petite usine de Flamanville au fond de son jardin. Je vous parlais aussi du chauffage urbain. Vous savez, on dit toujours le chauffage de ville, ça chauffe les écoles, les bâtiments administratifs, mais aussi des immeubles d'habitation qui se connectent au gaz de ville, et là ça chauffe. Et ça fait un moment que ce chauffage, on est passé du fioul, du charbon, au gaz, à la biomasse aussi, qu'on brûle, mais ça continue à créer beaucoup de CO2, et donc certains se disent, mais pourquoi on n'utiliserait pas le nucléaire, et notamment des petits réacteurs? Le principe, vous savez, du nucléaire...
C'est quoi un petit réacteur? C'est un petit réacteur comme une valise?
Oui, c'est une petite valise, mais alors elle va être dans un bâtiment de la taille d'un court de tennis, à peu près, et ce sera enfoui. Le principe, vous savez, la fusion nucléaire, ou la fission nucléaire, on met... de l'uranium, on met ça dans une piscine pour que ça refroidisse, c'est une réaction chimique, ça dégage de la chaleur. Cette vapeur d'eau, c'est elle qui va faire tourner ensuite les turbines et pour produire de l'électricité.
D'accord.
Et bien là, dans ce cas-là, alors on appelle ça des small modular réacteurs, donc c'est ces petits réacteurs. Eux, on ne va pas aller jusqu'à l'électricité, on va juste garder la chaleur. C'est-à-dire la fusion nucléaire va créer de la chaleur et c'est cette chaleur-là qu'on va injecter dans les réseaux urbains, donc à partir de ces petits réacteurs modulaires.
Mais est-ce que ça va nous faire baisser la facture d'électricité? Parce que c'est ça un petit peu l'enjeu.
Oui, alors l'enjeu. Alors déjà, en fabrication, donc sur nos impôts et tout ça, on va le sentir, puisque en gros, un EPR tel que celui que doit visiter a priori Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est plusieurs milliards. Hein. La facture était à 3 milliards, elle passe à 19 milliards.
C'est d'accord, beaucoup plus puissant. Baisser,
mais le SMR, on est en quelques dizaines de millions d'euros. Donc ça veut dire, et ça peut aider à chauffer 12 000 personnes par petit. Donc on imagine pour une ville de 100 000 habitants, on va en acheter une petite dizaine, on a pour 100 millions d'euros et on va chauffer tout ça. Donc ça, c'est au niveau des impôts, ce sera moins cher. Mais surtout, comme c'est de l'énergie décarbonée, etc., on va récupérer à une facture de chauffage qui peut baisser de 40%.
Mais c'est très bien ça.
Donc c'est plutôt pas mal.
Alors le truc c'est que vous allez avoir quand même plein de personnes qui vont pas avoir forcément envie d'avoir un réacteur nucléaire au pied de leur immeuble.
Voilà, et c'est là que la technologie entre en lice, parce que justement aujourd'hui les grandes centrales de chauffage urbain, elles sont pas au plein cœur des villes, en général elles sont un peu à l'extérieur, c'est elles sont mieux. À 10-20 km. Et bien c'est là que, alors c'est un Français qui est en train de travailler là-dessus, qui s'appelle Calogena, qui veulent installer leur petit réacteur. Alors ça se compose comment? Alors on appelle ça un crayon, c'est le combustible, c'est un crayon d'uranium qu'on plonge. Alors la piscine fait le bloc fait 1 mètre cube.
D'accord. Bon.
On plonge ça dans une petite piscine et l'ensemble c'est dans un bunker enfoui. Ça a la taille d'un terrain de tennis, donc déjà c'est facile à sécuriser. Parce que faut quand même pas, n'importe qui ne doit pas pouvoir y accéder. Et puis derrière c'est sécurisé aussi au niveau de la réaction chimique, enfin tout ce qui peut.
Et ça utilise des déchets, je crois, en plus.
Et ça utilise des déchets en plus. Il y a du combustible qu'on peut réutiliser. Absolument. Après il y a
centrales.
Après et puis en plus ce qui est pratique, c'est que le combustible existe déjà. Toute la chaîne existe, la chaîne de valeur. Même le recyclage des déchets, ça existe aujourd'hui. Mmh. Donc il suffit de le récupérer. Donc voilà. Donc c'est on est à horizon 2030. Et puis mais je pense que le gros, parce qu'il y a des certifications.
C'est difficile demain, 2030.
Hein. Oui, mais c'est des certifications.
Oui. Produit en série en 2040 ensuite. Ouais. Parce que
mais le gros souci, c'est vraiment l'acceptation. Est-ce qu'il y a des maires de ville qui sont prêts à dire...
Moins 40% sur ma facture, je prends tout de suite.
Voilà, c'est l'argument qu'il faudra avoir avec le côté propre décarboné.
Merci beaucoup Frédéric Simotel. On n'arrête pas le progrès tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, on parle de la Cour des comptes qui préconise l'autodéclaration des arrêts maladie de très courte durée. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à passer par un médecin pour ou contre. Dites-nous ce que vous en pensez au 3916.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
Les Grandes Gueules, ils abordent vraiment tous les sujets, et même des sujets qu'ils n'ont pas abordés sur d'autres radios ou dans d'autres médias. C'est une façon de débattre qui n'est vraiment pas habituelle.
Pendant 3 heures, des Français avec des très grandes gueules débattent autour d'Alain Marchal et Olivier Truchot. Sans langue de bois.
Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, 9h midi sur RMC.
Barcelone.
Oui.
Majorque.
Aussi.
Naples. Oh, les Cinque Terres.
Oh, si tu veux.
Alors, on choisit?
Choisissez-les toutes et vivez la magie de l'été avec Costa. Croisière de 7 nuits en pension complète à partir de 699€ par personne. Réservé avant le 9 juin. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
RMC Escrime. De vendredi à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De vendredi à dimanche avec RMC.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33.
Go.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Alors moi, aux réunions de famille, pour prendre la photo parfaite, c'est l'enfer. Genre, bougez plus, ouvrez les yeux! Mais grâce au Samsung Galaxy S24, avec l'intelligence artificielle qui fait des retouches photos en direct, là c'est... Elle est parfaite! On a réussi!
En ce moment chez SFR, l'IA est à l'honneur avec jusqu'à 220€ de remise sur une sélection de smartphones 5G Samsung, comme le Galaxy S24. Rendez-vous en magasin. SFR, soyez-vous.
Offre soumise à condition avec un forfait 5G éligible. Engagement 24 mois jusqu'au 19 mai. 5G sous réserve de couverture.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris. Ce week-end, avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé. On fait revenir toute la famille. On les fait mijoter dans l'herbe du jardin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
Bienvenue à vous tous, équipés d'une radio DAB+, qui écoutez désormais RMC à Tretz et ses environs. RMC avance en DAB+, partout en France. RMC, bien plus qu'une radio.
Uniquement chez Poltron et Sofa, on trouve des canapés stylés et confortables en même temps.
Et puis, uniquement ça.
Il y a plus de 90 modèles de canapés qui, seulement en ce moment, sont remisés de 30%.
Venez vite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
En ce moment, envoyez roux par SMS au 73216 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer roux et pas argent par exemple?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC dès que vous entendez.
Envoyez roux par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS max.
Roux au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner.
RMC.
Le défi hippique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau défi hippique. Aujourd'hui, le Quintet Plus se dispute sur l'hipporome de Vincennes à 13h55, le prix du Gâtinais. C'est une épreuve qui se dispute sur la distance des 2850 mètres avec un seul poteau de départ. Il ne sont plus que 14 trotteurs à prendre part à cette compétition puisque les numéros 2 et numéro 9 ont été déclarés non partants. Et nous sommes toujours avec François. Bonjour François.
Bonjour Mathieu.
Alors, qui est ton favori dans cette compétition qui a des bonnes bases hein?
Ouais, non, c'est une course qui va barder, qui va rouler. Epson Derfray va faire beaucoup de trains, mais sera battu par le 13 Grâce du Dijon, qui peut rester à deux nez au vent avec Franck Nivard, qui est le seul driver à Vincennes capable de donner le meilleur de son cheval à deux nez au vent.
Bah, c'est une belle possibilité, en effet.